La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 26 février et aujourd'hui, je crois que j'ai peur. J'ai peur de ce qui se profile dans les urnes dans quelques jours. Nous sommes à J-16 des élections municipales et l'extrême droite prend de plus en plus de place. Elle prend trop de place dans les médias, dans notre vie, et nous oublions une chose. Nous avons peur. Nous avons peur de Marine, de Jordan, de Eric et toujours encore de Manu. Nous avons peur de ce qui se profile et je me questionne, où sont les convergences de nos luttes? Où sont nos discussions et nos actions pour réinventer notre futur? J'ai l'impression, par moments, de me sentir face à un mur pour combattre et rêver d'un futur meilleur. J'ai l'impression que notre mur est tellement grand et puissant que notre futur est parfois impossible à imaginer. Sauf que nos luttes sont essentielles pour combattre les bottes de cuir et autres bras tendus. Nous devons rajouter de la joie et animer des discours positifs pour arrêter de faire culpabiliser les plus démunis d'être les exclus de la France. Je vois, tous les jours, dans mon travail, des personnes en dépression, dans des logements insalubres, sans suivi médical et au chômage. Si l'extrême droite passe, les accompagnements sociaux, les structures d'insertion et les services sociaux passeront d'accompagnements sociaux à boîte à chiffres. Et spoiler, c'est même déjà le cas. La convergence est déjà là depuis des années. Elle est vécue dans nos corps, dans nos quotidiens et dans nos vies. Il est donc essentiel de faire un pari pour nos luttes, celles qu'elles ne se superposent pas seulement sur des pancartes, mais qu'elles peuvent se parler, se nourrir et se contredire. Et pour la joie, les discours de l'extrême droite sont bourrés de peur, de culpabilisation et d'angoisse. Alors acceptons que le but de la vie, c'est la joie. Dansons, profitons et mettons de l'amour dans notre quotidien pour combattre l'extrême droite. Dans l'entretien de la matinale, Hugo reçoit Hélène Dacord, fondatrice de l'association Pax Musica, qui œuvre pour l'inclusion des personnes déplacées grâce à la musique, et Nadia Standa, pianiste ukrainienne. Dans la deuxième partie, Farah reçoit Leïla Amar de Kitty News pour nous parler de son quotidien de journaliste. Le Flash Info sera présenté par Hugo. Greg nous parlera cinéma dans sa chronique actualité et on clôturera avec Eve qui nous parlera de failles spatio-temporelles. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'entretien de la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Hugo, c'est à toi.
Oui, alors bonjour Hélène, bonjour Nadia. Vous êtes toutes les deux militantes, on peut dire, en tout cas bénévoles au sein de Pax Musica. Et Hélène, vous êtes la créatrice. Est-ce que ça va toutes les deux?
Ouais, très bien, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. On peut se tutoyer avec plaisir.
Ok, super. Donc ma première question, elle est pour toi Hélène. D'où vient l'idée en fait de Pax Musica?
C'est une longue histoire, mais long story short, en résumé, durant mes études, j'ai étudié les politiques d'insertion et d'intégration des personnes réfugiées. C'était en 2015, au moment de la crise migratoire. Et j'avais été en Allemagne et j'avais étudié ces sujets, notamment par le sport. Et donc, je m'étais rendu compte de l'importance des associations, des dispositifs associatifs pour accompagner les personnes déplacées, notamment réfugiées. Et donc, 10 ans plus tard, en 2025, malheureusement, compte tenu de la multiplication des conflits et d'un certain nombre de problèmes géopolitiques, soit au Proche-Orient, en Ukraine, à la frontière, aussi en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud, eh bien, j'étais assez sensible à ce sujet par la musique, parce qu'il se trouve que je suis mélomane et passionnée de musique. Donc, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de dispositif pour accompagner les personnes musiciennes qui ont trouvé refuge en France, et d'un point de vue très professionnel, vraiment en termes de réseau et d'accompagnement tout au long de la vie comme un tremplin professionnel. Et donc l'idée est venue là, et après c'est un choix de vie que j'ai fait de me lancer dans l'aventure.
Et en 2023, tu as sorti un livre, et en 2024, donc l'année d'après, tu crées Pax Musica. Est-ce que tu le vis comme une sorte de continuité?
Ouais, complètement. Complètement. Alors, c'est un livre qui parle d'histoire et de musique classique, donc j'espère que ça intéressera des auditeurs. Mais c'est vraiment deux passions dans ma vie. C'est pas que d'histoire, c'est de géopolitique. En fait, c'est de montrer comment, par la musique, on peut comprendre le monde d'aujourd'hui, et notamment la géopo. Donc, voir que quand il y a un concert, en fait, ça veut dire quelque chose en termes politiques ou en termes géopolitiques, et que la musique, même quand il n'y a pas de mots, par exemple en musique classique, bah, il y a une signification derrière, une symbolique. Et en fait, pour la petite histoire, c'est en fait durant la promo de ce livre qui m'a passionnée, surtout dans les échanges en fait, qu'on a avec les gens. Une fois qu'on sort un livre, on a plein d'échanges avec plein de personnes, soit certes dans des radios, mais surtout dans des salons du livre, des tout petits bleds, et on échange avec plein de gens. C'est passionnant. Et en fait, c'est aussi dans ces rencontres que j'ai pu échanger avec un certain nombre de musiciens qui venaient de pays, on pourrait dire, compliqués, soit parce qu'ils ont dû fuir en raison de la sexualité, d'une orientation politique ou d'un conflit. Et en fait, je me suis rendu compte aussi de l'absence de dispositif à ce moment-là, entre guillemets, sur le terrain, dans le cadre de la promo de ce livre. Et après, en effet, je me suis motivée un an plus tard à faire ce choix de vie de lancer l'initiative. Donc, il y a complètement une continuité. Et après, c'est... on ne va pas trop spoiler, mais c'est la rencontre avec des profils complètement inouïs comme Nadia et d'autres musiciens qui m'a vraiment achevé de me convaincre de poursuivre ce projet.
D'accord.
Et moi, je voulais juste rebondir. Est-ce que c'est un choix délibéré de s'intéresser à la musique classique? Et comment est-ce que toi, Nadia, tu t'es intéressée aussi dans ton parcours de vie professionnelle au piano et du coup à la musique classique?
Bonjour à tous. Je voulais me peut-être présenter d'abord.
Oui.
Je m'appelle Nadia et je suis pianiste d'origine ukrainienne. Et j'ai découvert la musique classique à l'âge de 7 ans par le chant. Et après, je m'étais intéressée beaucoup plus en piano. Et donc j'ai fait des cours de chant, du piano ensemble. Et après, à un certain âge, j'ai réalisé que oui, la musique, ce sera ma profession. Et donc j'ai continué un piano classique. J'ai laissé un peu le chant et j'ai continué un piano. Et ici, je suis en France, car peut-être vous le savez, à cause de la guerre, je suis ici à Paris déjà plus que... à peu près trois ans et demi. Et je continue mes études ici à Paris. Je continue des études en piano au Conservatoire National de Musique et de Danse.
Okay. Et Nadia, comment est-ce que tu as découvert Pax Musica?
Oui, c'était l'année dernière. Je me souviens très bien, c'était le 1er avril.
C'est pas une blague.
Oui.
C'est un beau hasard.
Oui, le 1er avril de 2020, qui est 2025. Ouais. Déjà 2025. Et c'était le premier concert consacré à Pax Musica. C'était au Sierra de Paris. Ouais. Et en fait, il y avait mes amis qui m'ont invité d'écouter ce concert. Je ne savais pas que ce sera consacré à Pax Musica. Je suis venue juste d'écouter mes amis. Et après, j'ai découvert cette organisation, cette académie.
Pour la petite histoire, ça a été une grosse surprise parce que ce concert, on l'a lancé, l'asso existait à peine depuis quelques mois et en fait, mathématiquement, moi, j'étais sûre qu'il y avait plein de musiciens parmi les personnes réfugiées, mais il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'études qui montrent ça. Du coup, je dis « on » parce qu'à la fin, j'avais réussi à embarquer un premier collectif de bénévoles, puis de musiciens, et l'aventure commençait à prendre. Et on ne savait pas trop s'il y aurait du monde, en vrai. On était genre 30 à 2 semaines avant. Enfin, j'exagère, mais peut-être 50, vraiment pas beaucoup. Et en fait, je sais pas, il y a eu un peu un buzz et juste avant, et le concert, après, on était plus de 300 au concert, on a refusé plein de gens, et il y a des gens debout, comme un truc de star. Et c'est en fait là où on s'est dit qu'il y avait un vrai besoin et qu'il y avait plein d'assos, dispositifs d'accueil qui étaient venus pour découvrir le projet tel qu'on le montait. Et ça nous a aussi donné une forme de responsabilité parce qu'après, on a eu plus de 70 candidats. Donc Nadia est une des heureuses élues de la première promo et elle le mérite amplement. Et du coup, c'est là où ça s'est lancé, en effet, à ce concert il y a un an maintenant.
Et du coup, pour revenir, qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé sur la musique classique? Pourquoi pas une musique cubaine ou la musique rap, etc. Ouais. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce que...
Moi, je viens du classique aussi. Souvent, c'est un truc de famille, la musique classique, parce qu'il faut beaucoup souffrir quand on est jeune pour arriver à quelque chose. Et après, ça vaut vraiment le coup. Mais du coup, voilà, ça vient de mes grands-mères, en l'occurrence. Une qui était harpiste, qui a dû arrêter parce qu'à l'époque, on pouvait pas, certaines femmes ne pouvaient pas se permettre de travailler. La vie de famille devait être priorisée, malheureusement. Et mon autre grand-mère qui avait monté un petit conservatoire en banlieue, qui m'a beaucoup inspirée. Et en fait, donc ça a été assez logique pour moi de partir du classique vu que c'est ce que je connaissais. À la fois en termes de réseau, de monde de musique, de savoir comment parler à un musicien classique, savoir comment organiser un concert, ça je savais tout ça. Et donc déjà je me lançais dans un truc complètement nouveau, donc je m'étais dit je vais commencer par ce que je connais. Mais le but, ce n'est pas du tout de rester que sur le classique. On s'est lancé comme ça et dès la première année, par exemple, on a sélectionné des musiciens arméniens. Et en fait, évidemment, on ne peut pas faire une asso qui accompagne les musiciens réfugiés en faisant que du classique et une musique... on pourrait dire occidentale, mais après le classique, on peut trouver de la musique classique arabe, de la musique classique de plein d'autres pays. Mais en tout cas, voilà, la question, c'était de commencer d'une base solide pour se développer et être programmé dans des belles scènes, notamment à Paris, et pour ensuite développer. L'an prochain, par exemple, on a des parrains en jazz et petit à petit, on va se développer dans d'autres styles de musique.
Et le fait que le classique, ce soit de là d'où tu pars, c'est que dans tes études, tu as fait des études de musique, de classique. J'ai vu sur le site que tu étais allé à l'ESSEC, à Princeton, je crois. Est-ce que ça a un lien avec, dans ton parcours ?
Pas avec le classique, mais avec le projet, oui. J'ai fait des études un peu longues, je me suis perdue en route, mais j'ai fait des études de commerce. J'étais en effet à l'ESSEC, l'école de commerce, et après, j'ai fait un double diplôme et j'ai étudié la géographie. Et en fait, je travaillais sur le sujet de géographie économique. J'étais à l'ENS, à Paris, puis après, j'étais aux États-Unis pour étudier. Et en fait, c'est dans ce parcours où je me suis un peu perdue, comme je disais, entre guillemets. Enfin, je ne me suis pas perdue, ça a été un engagement personnel, mais c'était au moment de la crise migratoire. Et donc, je ne me suis pas contentée que d'étudier l'économie. Et en fait, il y a vraiment eu plein de groupes de travaux qui se sont créés à l'époque à l'ENS à Paris. Et c'est là où j'ai un peu dévié. Donc ça, c'est le lien avec le sujet... migratoire. Et le sujet avec la musique, bah, comme beaucoup de musiciens, j'avais une passion parallèle qui était la musique. Donc je fais le conservatoire à Pau, puisque je viens du Béarn. Et voilà, j'ai toujours continué la musique comme ça en plus, en parallèle. Et contrairement à Nadia, moi je suis pas allée jusqu'au conservatoire de Paris, qui est la crème de la crème en France dans le milieu musical.
Donc tu nous as parlé du fait qu'il y avait une première promotion. C'est quoi en fait exactement les actions de Pax Musica aujourd'hui ? Nadia, si tu veux nous en parler.
Comment est-ce que toi, t'as accompagné dans ton projet professionnel ?
Qu'est-ce que c'est au quotidien ?
Pour moi, d'abord, les possibilités que je donne à Pax Musica, c'est... je suis beaucoup intéressée à la musique folklorique et grâce à Pax, j'ai découvert la musique et des cultures la culture des autres, d'autres peuples. Par exemple, il y a beaucoup de participants cette année. Cette année de lancement, il y a des participants du Liban, d'Arménie. Je suis beaucoup intéressée à la musique classique. En musique traditionnelle. Ouais. Et j'ai cette chance de jouer ce type de musique en concert parce que, comme on sait bien, en musique classique en général, dans les conservatoires, dans beaucoup des salles de concert, il y a un certain programme qui est un peu limité. Pas partout on peut représenter ce programme par exemple. Et grâce à Pax, j'ai cette possibilité de découvrir les autres cultures et de partager ma culture aussi et de découvrir les autres et jouer sur la même scène.
Mmh. Oui, puisque il y a beaucoup de nationalités et de personnes d'origines différentes. Est-ce qu'il y a une richesse de partage qui se crée au sein des promotions ?
Oui, cette année, par exemple, donc là, dans les candidatures, on avait eu 75 candidats originaires de 24 pays. On a dû faire une sélection, malheureusement, parce qu'on ne peut pas accompagner tout le monde. Et donc là, on a sélectionné 10 lauréats pour la première promo originaire de 6 pays. Donc cette année, il y a Ukraine, Russie, Syrie, Arménie, Liban, et une chanteuse kurde également en Turquie, le Kurdistan. Et donc le but, c'est que chaque lauréat soit accompagné par un mentor, qui est un grand musicien tout au long de l'année. Par exemple, Nadia est accompagnée par Dana Chiocarlier, une immense pianiste d'origine roumaine qui elle-même a vécu l'exil, arrivée en France dans les années 90, a commencé de rien et maintenant est une très grande pianiste. Mais du coup, c'est super bien d'avoir cette transmission de personnes qui l'ont vraiment vécu pour comprendre ce qui se vit. Et après, cette richesse, enfin du moins ce qu'on essaye de faire dans l'échange interculturel et l'inclusion de nouveaux répertoires sur scène. Donc, c'est pour ça qu'on parle de classique. Le but, c'est aussi de... Est-ce que la musique folklorique est classique ? Je ne sais pas au final. Mais en tout cas, c'est une musique qu'on essaye un petit peu décalée. C'est l'air de mettre en écho de façon un peu décalée et c'est pas moi qui vais imposer tout ce qui se joue. C'est aussi les musiciens eux-mêmes qui arrivent avec des propositions, comme Nadia qui a à chaque fois de superbes idées, notamment de jouer avec Artyom Minassian qui est un joueur de doudouk arménien. Le doudouk, vous savez, c'est ce qu'on entend dans Gladiator, cette flûte qui fait pleurer à chaque fois.
On saura maintenant, on pourra se la péter dans les dîners mondains.
on va marquer une petite pause musicale et on va revenir juste après. On va écouter I Want to Work Less de Grand Commander.
I wanna work less. I don't want a cold shower to endure what's next. I wanna kill my ambition, disappear into the forest. So when you tell me why I'm wrong, I won't hear it. I need to take a break.
glass. There's pressure in my throat from too much stress. Take a look around, it makes perfect sense. I'm adversely affected by negative environments. I need to believe, if I scratch and I bleed, I'll find a way. Through the unknown, headed for home. Someday, play the game they say, pass every test. Learn to be a leader, no time for rest. Machines are so smart, they simulate intelligence. They can do my work, let them handle it. I wanna feel good, I wanna feel my best. You tell me not to worry, I'm obsessed. Impossibly unsettled, a panic-stricken mess. I wanna feel secure, not like this. I need to believe, if I scratch and I bleed, I'll find a way. Through the unknown, headed for home. Someday, running out of time, not much left. Step. The sun may be shining, it's time to get dressed. I don't want to work more, I want to work less.
I want to work less.
I want to work less. I want to work less.
Il est 19h18, vous venez d'écouter I Want to Work Less par Grand Commander. C'est l'heure de la matinale.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Hugo, c'est à toi.
Oui, alors on est toujours avec Nadia et Hélène de Pax Musica. Pour cette deuxième partie de l'interview, j'aimerais vous demander, on y fait quoi exactement à Pax Musica ? Hélène, tu m'as parlé d'un concert, mais il y a d'autres choses, il me semble.
Oui, tout à fait. On a trois piliers. Non, c'est comme ça que je l'explique, parce que je parle souvent en trois points. Pour les gens.
C'est très bien, très organisé, j'aime ça.
Vas-y, premier pilier, balance.
Premier pilier, c'est trois verbes, c'est révéler, transmettre et rayonner. Révéler, le but, c'est de révéler des talents comme Nadia et comme d'autres musiciens qui font partie de la première promotion de Pax. Et donc ça, ça veut dire un lien privilégié avec un mentor qui est un très grand musicien et des programmations sur la scène prestigieuse comme au Palais de la Porte Dorée, Musée National sur l'Immigration ou à l'Opéra de Paris comme prochainement. Mmh. Ainsi que transmettre, c'est des rencontres en milieu scolaire qu'on organise. On a rencontré 700 jeunes, collèges, lycées, depuis septembre dernier. On va rencontrer une trentaine de classes dans l'année. Et enfin, rayonner, on adore Paris, mais le but, c'est de ne pas être qu'à Paris, mais aussi aller sur les territoires. Et donc cette année, on a des résidences dans des lieux privés en lien avec des territoires qui ont lieu en Savoie, en Eure-et-Loire, en Bretagne, mais aussi dans le Var, dans le Sud. Et le but, voilà, c'est d'accompagner les musiciens au travers de ces différents piliers pour, in fine, il y a un seul but, c'est créer ce lien par la musique, à la fois créer du lien par la musique, à la fois dans la promo, comme disait Nadia, entre des musiciens de plein de cultures et d'origines différentes, et à la fois créer du lien entre des spectateurs et des musiciens, aussi pour changer de regard, pour que les spectateurs se disent « Ah, c'est un super pianiste », avant de se dire « Ah, mais il est syrien ou il est ukrainien ». Et que ça banalise quelque part le fait d'être musicien et d'avoir un parcours forcément différent d'une personne qui a fait... un très beau parcours en France, par exemple.
Et est-ce qu'il y a des... Alors, l'association, j'ai l'impression qu'elle est assez jeune, de ce que vous dites, mais est-ce qu'il y a des relations qui se sont créées, des groupes qui se sont créés depuis la création et les interconnexions qui se sont faites ?
Tu veux savoir s'il y a des love stories, là, non ?
Non, j'ai pas dit love stories, j'ai dit des groupes. Hugo, pourquoi tu parles toujours de couple et d'amour ? Non, je disais, est-ce qu'il y a des groupes qui se sont créés ou des prestations ou des albums qui se sont créés via la création de Pax Musica ?
Bah, des albums, pas encore, mais on en rêve. Mais en fait, on a fêté nos un an en novembre dernier. Donc en fait, on a un an, donc on cherche encore des bénévoles, des musiciens, des soutiens. Donc on est tout jeune et ça part très vite pour autant. Et donc dans les groupes, il y en a qui sont venus en tant que groupe. Par exemple, on a un duo syro-libanais, clarinette et piano qui sont venus en tant que groupe. Et il y a d'autres groupes en musique de chambre qui se créent. Bah, Nadia, peut-être que toi, tu peux en témoigner. Tu as notamment beaucoup joué avec un violoniste, ainsi avec le joueur de doudouk Artyom.
Ouais, je joue avec plein de musiciens, beaucoup de musiciens. J'avais déjà l'expérience de jouer avec le doudouk, donc l'instrument national arménien. J'avais aussi cette expérience de jouer avec le saxophone, avec le saxophoniste ukrainien aussi. Mais ce n'est pas très habituel ce duo piano-saxophone. Je vais bientôt jouer aussi avec le kanun, aussi l'instrument arménien.
Alors le kanun, c'est comme une harpe, mais que vous posez sur vos cuisses, qui est horizontale, et avec vos doigts, vous grattez toutes les cordes, et c'est magnifique.
Oui, et bien sûr, j'avais l'expérience du duo classique violon-piano, de piano à quatre mains, etc.
En musique, il y a différentes tonalités, mais il y a aussi différentes manières de lire une partition. En France, nous, on a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais en Angleterre, par exemple, ils ont un autre système. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à travailler avec des musiciens d'origine très différente, donc avec potentiellement des approches de la musique différentes ?
Pour moi, il n'y a pas de difficulté parce qu'on a le même système. Et on a les mêmes notes sur des partitions. Je peux dire que pour moi, particulièrement, il n'y a pas de grandes difficultés. Et aussi, c'est compter ce fait que j'aime ce que je fais beaucoup. Donc, ces difficultés, elles disparaissent.
Mais non, mais c'est beau parce que ça veut aussi dire que la langue de la musique, elle est aussi universelle, quoi.
Ouais, complètement. Et pour compléter, peut-être... Donc oui, à ce niveau-là, quand c'est des musiciens pros, ils savent tous lire une partition, donc ils peuvent s'échanger comme ça des morceaux. Mais il y a certains styles musicaux dans lesquels il y a beaucoup de par cœur et de mémoire. Et pour eux, c'est pas possible de lire une partition, par exemple en musique arménienne. Et donc c'est très drôle de voir des répétitions entre des musiciens arméniens et des musiciens plus classiques, puisqu'il y en a un qui veut la partition, l'autre qui dit « Mais non, souviens-toi, il y a trois jours, on a fait ça comme ça. » Donc c'est un peu deux styles quand même de culture assez différents qui permettent aussi ce dialogue.
D'ailleurs, j'avais une question un petit peu, peut-être un peu plus politique, c'est dans la manière dont on parle, parce que t'as parlé de réfugiés, de personnes immigrées. Comment, à Pax Musica, vous parlez en fait des personnes ? Est-ce que vous parlez de personnes immigrées, par exemple, pour personnaliser, humaniser ? Comment cette question en fait, des mots, elle est posée au sein de l'association ?
Mais elle est fondamentale, en effet, et l'asso s'est beaucoup créée autour de groupes d'échanges et de paroles. Moi-même, je viens du monde de la recherche académique, donc pour moi, c'était assez important. Et en effet, on s'est beaucoup questionné, est-ce qu'on voulait parler de personnes exilées, de personnes réfugiées, de personnes qui ont trouvé refuge, de personnes émigrées, de réfugiés, de musiciens. Et en fait, voilà, on a eu beaucoup de débats en interne. Et pour le moment, on a décidé de ne pas trancher en termes politiques, puisqu'en effet, il y a certains mots qui revêtent une vraie signification politique, surtout aujourd'hui. Et Pax, le but, c'est d'être politique, parce que forcément, le but, c'est que la musique ait un sens dans l'action citoyenne, mais pas partisan pour autant. Et ça, c'est vraiment un des buts de l'association, de ne pas être partisan et de ne pas être confessionnel. Et donc, on a utilisé le terme de « avoir trouvé refuge en France ». C'est comme ça qu'on désigne les musiciens. Mais en vrai, notre but, c'est surtout de ne pas essentialiser les personnes et donc pas dire « Ah, c'est des musiciens réfugiés ou des musiciens qui ont trouvé refuge », mais plutôt on parle de lauréats et de musiciens lauréats pour pas que quand tu vois une personne sur scène, tu dises « Ah, mais c'est un réfugié ». En fait, non, c'est un musicien lauréat qui était sélectionné pour son niveau, pas parce que pas par charité, en fait. C'est pas par charité qu'on va l'accompagner, mais c'est parce que c'est un professionnel, une professionnelle qui mérite d'être accompagné et qui arrive en France et qui doit recommencer de zéro parce qu'il n'a pas les réseaux, il n'a pas forcément les bons soutiens. La musique, c'est comme dans plein d'autres domaines. Il faut quand même avoir, c'est comme pour trouver un stage, par exemple, il faut connaître quelqu'un ou avoir une recommandation. Bah, la musique, ça marche beaucoup comme ça aussi, malheureusement.
Est-ce que c'est facile de continuer à garder cette posture apartisane, surtout quand on accompagne des personnes immigrées, au vu des temps qui courent?
C'est pas facile, mais il n'y a jamais rien de facile. Et je pense que même d'être partisan, c'est pas facile, au final, dans le monde d'aujourd'hui. On a fait ce choix-là parce que mon but, moi, du coup, en tant que fondatrice de l'asso, c'est vraiment d'avoir aussi des bénévoles de tous bords. Et pour le coup, pour le moment, le pari est réussi. Et c'est chouette d'arriver à le faire vivre, à l'animer, d'avoir une vraie famille qui prend vie en interne. Et en fait, le but, c'est de prendre parti dans la mesure où forcément qu'on défend le droit des étrangers puisqu'on défend le droit de nos musiciens. Donc quand t'es avec un musicien bloqué à la frontière, bah forcément que tu hausses le ton et que là tu gueules un coup pour expliquer que c'est pas normal, c'est une question d'accessibilité essentielle au droit, et là tu prends position, en quelque part tu prends parti. Mais par contre, c'est de pas forcément stigmatiser, voilà, une position ou une autre, mais plutôt d'essayer du moins d'avoir un point de vue assez universel comme on essaye de l'avoir par la musique, en disant que bah, on peut jouer avec tout le monde et qu'on ne va pas boycotter par exemple un pays ou un camp particulier. Ça, c'est vraiment un des buts de l'association, mais de montrer que la musique permet encore aujourd'hui de tisser ces liens entre tout le monde, et même des musiciens qui viennent de pays qui sont en guerre. Et c'est ça qui est dur et très beau aussi quand ça se fait en interne dans la promo.
Tu as quelque chose à rajouter, Nadia ?
Non.
C'est OK.
Tu peux continuer, Hugo.
OK.
Mais pour illustrer peut-être en concret, pas Nadia, mais du coup, il y a une autre pianiste ukrainienne dans l'asso qui est lauréate, qui est accompagnée par un mentor qui est russe. Et vous voyez, c'est assez intéressant aussi de créer ces ponts-là. Et de ne pas en faire tout un truc en mode « Ah bah c'est la paix dans le monde, parce que vous voyez, on a réussi à rabibocher deux camps. » Non, c'est pas ça. C'est montrer que quand on parle d'un terrain commun, la musique, bah, en fait, des fois, on peut un peu mettre de côté des choses qui nous séparent en a priori pour se dire bah, « Là, on travaille juste pour faire ce concert, pour avancer dans notre carrière. » Et on essaye d'avancer sur ce langage commun et pas de mettre une frontière juste en arrivant et de refuser même de se parler. Ouais.
Est-ce que vous avez des liens avec d'autres associations qui accompagnent des réfugiés ? Je pense peut-être pas forcément à SOS, moi je pense à SOS Méditerranée comme ça, mais pas forcément.
Oui, bien sûr, ouais, bah des tas. On en a rencontré beaucoup et on essaye d'être beaucoup en lien. Là, par exemple, en ce moment, pour la diffusion de l'appel à candidature, j'adore Nadia, mais voilà, un jour, on aura une nouvelle Nadia. Le but, c'est d'accompagner tous les musiciens pendant un an. Donc en ce moment, là, depuis aujourd'hui, on a ouvert notre nouvel appel à candidature. Donc s'il y a des musiciens qui ont trouvé refuge en France, et des étudiants qui nous écoutent, allez-y sur Insta, c'est Pax Musica Academy. Vous pouvez voir notre lien un peu partout. Et donc, pardon, la question, c'est le lien avec le monde associatif. Il y a des assos comme JRS Welcome, comme Eloquentia, comme FLA, Français Langue d'Accueil, comme l'Atelier des Artistes en Exil à Paris, comme SOS Méditerranée aussi pour l'accueil de personnes qui viennent d'arriver en France, comme... des dizaines et dizaines d'assos, et le but c'est d'être en lien, et notamment c'est en ça quand même qu'il y a certains dispositifs institutionnels qui sont utiles dans la mesure où ils permettent quand même de créer ces communautés d'associations qui vont dans le même sens pour partager l'information, notamment en ce moment.
D'accord. T'as parlé de ton Instagram, et il me semble que quand on va dessus, on a des nouvelles sur un prochain concert qui arrive. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et Nadia, en plus, il me semble que tu joues à ce concert.
Oui, j'accompagne presque tout le monde.
Tu es la star du concert, en fait.
Exactement.
C'est un peu le concert de fin de cycle d'accompagnement, c'est ça ?
De milieu. C'est le concert de milieu de cycle, mais de début d'appel à candidature. Et donc, c'est le 13 mars, donc très bientôt, au Studio Bassi, à l'Opéra de Paris.
Donc, juste à côté de Radio Campus, vous pouvez écouter la matinale et après aller au concert.
Exactement. Et en plus, vous n'avez aucune excuse, vous pouvez tous venir. Le prix est libre, donc chacun met ce qu'il peut. Et le but, voilà, c'est de rendre la culture accessible et aussi de montrer, d'expliquer ce qu'est ce projet et de permettre de rencontrer des musiciens, de comprendre en quoi ça consiste et de découvrir plein de musiques différentes de plein de pays du monde, puisqu'il y aura de la musique arménienne, il y aura de la musique ukrainienne, il y aura de la musique syrienne. Et donc voilà, le but, c'est de voyager aussi au travers de tous ces tableaux sur scène.
Vous faites un tour du monde sans bouger de chez vous, ce qui est quand même une belle opportunité, et ça vous coûte presque rien, donc voilà.
Et Nadia, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y prépares à ce concert, et est-ce que tu peux nous dire quel morceau tu vas jouer?
J'ai besoin juste d'une minute de me rappeler de tout ce que j'ai à 13.
Vas-y, prends ton temps.
Je ne veux pas jouer un solo, mais je veux jouer un duo avec saxophone, avec violon, avec deux violons, avec deux avec des instruments arméniens. Donc il y aura de la musique traditionnelle, de la musique classique. Il y aura une sonate, c'est une œuvre classique pour violon, mais arrangée pour saxophone. Donc, ce n'est pas très souvent que vous pouvez entendre ça en concert. Donc,
ce sera une belle opportunité. Ouais. Et bah, du coup, on viendra tous, tout Radio Campus, on viendra le 13 mars. Du coup, c'est un concert au studio Bastille. Je crois que prendre ses places, c'est sur le Hello Asso de Pax Musica, c'est ça?
Ouais, sur l'Instagram, là, vous pouvez aussi connecter pour nous rejoindre, pour être bénévole.
Exactement.
En fait, un community manager en ce moment, si ça vous intéresse.
Voilà. Et bah, merci beaucoup, Hélène et Nadia, d'être venues au micro de Radio Campus pour nous parler de Pax Musica. C'était un plaisir de vous recevoir. Et maintenant, merci, je crois beaucoup, que c'est le flash info de Encore Toi, Hugo, parce que tu nous monopolises la parole, en fait.
Eh oui, merci Diane pour ce lancement.
Le flash info de la matinale de 19h.
Et pour ma première info, je vais parler de moi. Car le savais-tu, le comique de répétition, c'est mon type d'humour préféré. Info média maintenant. Le Gorafi annonce la sortie d'un numéro papier pour une information non fiable et selon des sources contradictoires. À titre personnel, j'espère qu'on y trouvera du comique de répétition. C'est mon type d'humour préféré. Tu le savais, Diane ?
C'est chiant.
Info Radio Campus Paris. On retrouverait dans le flash info de ce soir du comique de répétition. Mais cette information n'a pas encore été répétée. Politique maintenant. Aurore Berger déclare que LFI était un parti anti-France, se mettant ainsi à parler comme Charles Maurras, antisémite notoire et fondateur de l'Action française, un groupuscule d'extrême droite, violent et antisémite. Le retour du pétainisme à droite, contrairement au comique de répétition qui, lui, fait rire, est juste dangereux. Politique encore, Catherine Pégard, ancienne présidente du château de Versailles, remplace Rachida Dati au ministère de la Culture. Inutile de vous dire que c'est une proche de Macron, ce serait du comique de répétition. Mode maintenant, après le BHV, 5 nouvelles boutiques Shine vont ouvrir dans 5 grandes villes françaises, Limoges, Angers, Dijon, Grenoble ou encore Reims. Une victoire pour le capitalisme et aussi pour le comique de répétition. C'est mon type d'humour préféré, tu le savais, Diane ? Musique maintenant. Mélodrama de Théodora et Dizis vient de dépasser un nouveau record. Avec 19 semaines en top 1 des écoutes, le titre devient le morceau francophone avec le plus de longévité à la première place. À égalité dans mon cœur avec le comique de répétition. C'est mon type d'humour préféré, tu le savais, Diane ? Et pour finir, un point météo, parce que j'espère que vous avez profité du soleil aujourd'hui, car la pluie revient demain dans la capitale. Elle est aussi tenace que le comique de répétition. C'est mon type d'humour préféré, tu le savais, Diane ?
Merci Hugo pour ce flash info. Maintenant, on va écouter Country Road de Yoko Ono.
Time.
avez écouté Country Road par Yoko Ono. Il est 19h36, c'est l'heure de la matinale sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et maintenant, c'est l'heure de la chronique actu de Greg. Tu nous parles cinéma, si je ne me trompe pas.
Non, tu ne te trompes pas. Bonsoir. Donc au moment où on se parle, tout le gratin du cinéma français se dirige en direction de l'Olympia pour sa sauterie annuelle. Dans quelques heures, des dizaines d'artistes et artisans repartiront avec le fameux petit César trop mignon sur lequel on aura gravé leur nom. Est-ce que cette actu est vraiment importante ? Absolument pas. Aucune vie ne sera sauvée à l'issue de la cérémonie. Est-ce que c'est un divertissement qui vaut la peine d'être vu ? Eh ben non plus, hein. C'est souvent trop long et un peu chiant. Alors pourquoi on en parle autant ? Pourquoi certains vont même jusqu'à organiser des soirées César entre amis ? Eh bien parce que ça reste une compète et toutes les compétitions sont vectrices d'émotions fortes. Il y a celles et ceux qu'on aime, celles et ceux qu'on déteste, celles et ceux dont on se fout totalement et que donc bah, on n'aimerait pas voir gagner. On en profite pour tirer à balles réelles sur les looks, les physiques, la nullité de certaines interventions, tout y passe. C'est une vraie soirée punching ball et donc une soirée qui finalement, si on sait la gérer, peut faire du bien. C'est pour ça que tout de suite, je vous propose l'avant-soirée idéale. Loin de tout tapis rouge et de tout glamour, je vais simplement vous donner le nom des gens que je ne veux absolument pas voir gagner ce soir, comme ça, en toute gratuité. Donc pour le meilleur acteur, les nommés sont Pio Marmaille, Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, Benjamin Voisin et Claes Bang, je ne sais pas comment on dit ce nom. Et celui qu'on ne veut pas voir gagner est... Pio Marmaille. Bravo, on applaudit. Mais en vrai, ça aurait pu être Laurent Lafitte ou même Bastien Bouillon qui a dû jouer dans 48 films cette année. Je les aime, c'est pas la question, mais je peux plus voir leur tronche. Faut qu'ils nous laissent respirer un peu. On n'a qu'une dizaine d'acteurs en France ou comment ça se passe ? Je suis d'ailleurs très surpris que François Civil, Pierre Niney ou Gilles Lelouch ne soient pas de la partie. De toute façon, le cinéma français kiffe se faire croire qu'il est inclusif, moderne, porteur de nouveaux visages, bla bla bla, rien de tout ça n'est réel. Il y a qu'à voir l'année dernière où tout le monde s'est bien masturbé sur la victoire d'Abou Sangaré. Comme on est géniaux en France, regardez ce que le cinéma permet et la lumière que ça met sur des situations intolérables, bla 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 encore. Un an plus tard, il s'est rien passé pour Abou Sangaré qui n'a pas retourné un film et qui est toujours mécanicien. Et alerte spoiler, je crois qu'il se passera rien de plus pour lui dans les années à venir. Bon allez, on passe aux actrices. Les nommées sont Isabelle Huppert, Leïla Bekti, Léa Drucker, Valeria Bruni-Tedeschi et Mélanie Thierry. Celle qu'on ne veut pas voir gagner est... Oui, vous le savez très bien, vous avez la logique maintenant. C'est qui ? On sait pas ?
On sait pas.
Allez, Isabelle Huppert pour moi. Bravo Isabelle.
Bravo.
Et ben c'est pareil, on en a marre. Et encore heureusement que Leïla Bekti est là pour le côté diversité. Un peu plus, on avait Virginie Efira à sa place et on tombait dans le combat des blanches et blondes. Non mais c'est fou, pendant qu'aux États-Unis on pousse le bouchon un peu loin allant jusqu'à raciser Blanche-Neige, quel est l'intérêt, on cherche encore. Ben nous en France, on est très très timoré en continuant à miser sur les mêmes recettes et surtout les mêmes personnes. Un bel entre-soi bien regrettable. Bon, allez, j'ai plus le temps, je m'arrête là. Je vous laisse finir ce petit jeu chez vous si vous le souhaitez. Moi, même si je critique, hein, je vais mettre devant la cérémonie qui ne m'apportera certainement aucune surprise comme chaque année. Mais s'il te plaît, cinéma français, fais confiance à notre intelligence de spectateur. Concentre-toi sur les vraies bonnes histoires et je t'assure qu'on ira où tu iras, même sans star. Alors juste un dernier petit truc. Oui. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à rattraper le film La Pampa, porté par des quasi inconnus et qui, moi, m'a bouleversé l'année dernière. Voilà, c'est fini pour moi.
Merci beaucoup, Greg, pour cette chronique actuelle et cette recommandation cinéphile à la fin. Et maintenant, c'est l'heure du Zoom présenté par Farah.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Bonsoir, Leïla Amar.
Bonsoir,
Farah. Vous m'entendez ?
Je vous entends.
Bonsoir.
Très bien.
Alors, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, spécialiste de la question des migrations et présidente du média indépendant Guity News. Alors, la toute première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de créer en 2019 ce média franco-exilé ?
Alors, l'idée est venue de plusieurs journalistes qui se sont rencontrés dans différentes circonstances. des journalistes français qui travaillaient notamment pour des médias mainstream et des journalistes en situation d'exil, où tout le monde s'était fait la même réflexion, à savoir que la migration était un sujet assez complexe et que c'était traité de manière assez plate en France. Et c'est de là qu'est venue l'idée donc de mes collègues de fonder ce média, et j'ai rejoint le média à la toute première conférence de rédaction en janvier 2019. Et moi, j'avais fait déjà 7 ou 8 ans de télé publique, où pour moi, en tout cas, la migration était assez bien traitée, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose dans on rentrait pas dans le sujet en archi-profondeur. Ça manquait quand même d'expertise un peu partout dans nos médias. Et donc voilà, on s'est dit qu'un média où on pouvait croiser les regards entre des journalistes qui connaissaient bien leur métier et qui avaient vécu la migration dans leur chair, accompagné de journalistes français et donc de travailler en binôme, c'était quelque chose qui pouvait qu'aider au développement de ce sujet dans le paysage médiatique en France. Et voilà pourquoi moi ça m'a beaucoup parlé, parce que ça venait apporter de la nuance dans un sujet perplexe qui n'était pas traité en tant que tel. Donc moi ça m'a attiré tout de suite, voilà.
Et aujourd'hui, du coup, 7 ans plus tard, est-ce que vous avez l'impression que beaucoup de médias ont rejoint un petit peu votre cheval de bataille? Est-ce que vous vous sentez encore assez isolé dans la défense de ces propos?
Je ne pourrais pas dire beaucoup de médias, parce qu'il y a quand même beaucoup de médias en France. Je pense que c'est un sujet auquel on fait un peu plus attention, peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est juste qu'il sert beaucoup les agendas politiques, donc on en parle beaucoup dans les médias, puisqu'on travaille beaucoup en réaction aujourd'hui aux messages politiques, on est dans l'instantané. Donc c'est un sujet qu'on entend beaucoup, et par ce biais-là, malheureusement, il attire l'attention même des rédactions. Maintenant, les rédactions qui ont choisi en France de se spécialiser, ou en tout cas d'avoir un ou une experte au sein de leur rédaction, ça reste quand même les spécialistes migration en France. On en a une dizaine, une quinzaine dans les médias, les grands médias, je veux dire. Donc ça reste quand même assez peu. Et bon, c'est pourquoi nous, on milite on a envie d'inciter nos collègues, tous médias confondus, hein, publics, indépendants, privés, à se perfectionner dans le traitement, en tout cas à se former dans le traitement de cette thématique-là.
Alors, en plus de tous ces volets que vous défendez, donc il y a de la presse écrite, il y a du podcast, il y a vraiment tous les formats audiovisuels qui sont proposés sur Getty News. Vous avez aussi, lors des assises journalistiques de Marseille, je vais y arriver, l'année passée, vous avez participé à un collectif, à une rédaction de la Charte de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur l'importance de ce document pour structurer justement la manière dont on aborde la migration dans les rédactions aujourd'hui en France ?
Oui, bien sûr. Mais justement, cette idée de charte est née d'une envie, enfin en tout cas d'un constat qu'on a fait avec différents collègues, pas forcément au sein de Getty News seulement, mais au sein des Infox Migration, IJNet, même des syndicats en fait, que la migration devenait un sujet, comment je vais dire ça, problématique dans la façon dont il était traité. Beaucoup de journalistes se font la réflexion. Et donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle, surtout qu'à chaque échéance électorale, on voit que c'est le top trending topic, donc c'est le sujet dont on parle le plus.
Donc, mais est-ce que c'est nouveau, ça, en France, que la migration, c'est un sujet de débat politique ?
Je ne pense pas que ce soit nouveau, mais je pense qu'avec la multiplicité des médias en ligne maintenant, des réseaux et le fait en fait que je pense que la situation économique aussi fait qu'on a besoin d'avoir un autre sujet. En fait, on a souvent besoin d'un sujet bouc émissaire pour masquer ce qui cloche. Et comme on ne peut pas dire qu'on soit dans la période la plus grandiose que notre pays est connu, que notre monde est connu en ce moment. Donc forcément, c'est le grand retour des boucs émissaires. Et le sujet de la migration va être un des sujets numéro un auquel on va s'attaquer. Donc non, ce n'est pas nouveau, mais je pense qu'on est dans le cycle de l'histoire où ça y est, ça revient en force de pointage du doigt et de fausses informations à droite, à gauche, au milieu. Donc nous, on s'est fait cette réflexion, puisqu'en tant que journaliste, ça reste quand même notre responsabilité d'informer les citoyens et de ne pas dire n'importe quoi. Donc nous, on a vu que ce sujet qui revienne sur le devant de la scène comme ça, qui soit sur le devant de la scène, c'est une chose, mais que des grands médias mainstream en France laissent passer, c'est au-delà des chiffres erronés, c'est que ce manque de contextualisation peut être potentiellement dramatique pour l'opinion publique et pour le chemin que prend le pays. Donc l'information, il faut la traiter avec soin, avec précision, avec contexte. Et lorsqu'on se retrouve sur un plateau, parce que vous avez certainement vu, comme nous tous, la multiplicité également ces dernières années avec l'essor des chaînes info, les plateaux où il y a une multitude d'experts, entre guillemets, de gens qui sont invités à discuter d'un sujet, puisque produire de l'info comme ça, ça reste de la production peu coûteuse, moins cher que du reportage, évidemment. Et donc, on a beaucoup de gens qui parfois disent des choses qui ne sont pas forcément experts dans le sujet des migrations, mais qui sont invités à en parler. Et on a constaté une grande absence de contre-argumentaires. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on a décidé de créer un outil à destination des journalistes en France, mais pas que.
Donc, en l'occurrence, cette charte de Marseille sur l'information et les migrations, qui contient 10 engagements. Un des engagements est de ce... 11. 11
articles.
Ils sont devant moi. Il n'y a rien qui va ce soir. Je suis bouleversée. En fait, je suis bouleversée par le sujet.
C'est plutôt 10 engagements. Le 11e, c'est plutôt une examination interne. Mais oui, mais c'est 11 articles.
Merci. Merci de me soutenir.
et donc, faire à toi bien.
un des engagements, c'est justement se former et former ses pairs. Alors, la charte de Marseille, du coup, vous l'avez co-construit, vous avez dit, en collaboration, en collectivité. C'est un sujet porté qui a été défendu aux Assises internationales du journalisme de Marseille. Vous allez justement faire le bilan et les perspectives. Vous allez en parler lors d'une conférence aux Assises du journalisme de Tours cette année, qui aura lieu en avril. Alors, on a envie de savoir quel est le bilan de cette charte, mais en développant un petit peu les différents leviers que vous avez décidé de choisir pour former justement vos collaborateurs et collaboratrices journalistes dans les rédactions françaises.
La charte, c'est un rappel déontologique de l'éthique des journalistes, puisqu'il y a déjà des chartes pour les journalistes, mais l'idée c'était quand même vraiment de s'inspirer de ce qui avait déjà été fait, puisque des chartes existent par ailleurs en Europe, notamment la charte de Rome et la charte d'Idomeni en Grèce. Donc nous on a voulu l'adapter un peu au système français, et pour ça il a fallu qu'on comprenne déjà ce qui était manquant ou ce qui était problématique au sein des rédactions quand on s'attaque au sujet des migrations. Donc on a mené une grande étude, enfin consultation auprès des journalistes en France, et c'est grâce à ça qu'on a élaboré ces articles-là. Donc ces articles, qu'est-ce qu'ils disent? En essence, oui, la contextualisation, le fait de traiter le sujet de la migration comme un sujet transversal et non pas qu'un sujet sécuritaire, identitaire ou économique, qui sont les trois grands angles qu'on retrouve systématiquement dans la presse, mais également la formation, parce qu'on s'est rendu compte à l'occasion de cette consultation, ces focus group qu'on a mené, c'est que beaucoup de journalistes, finalement, n'étant pas formés à ces sujets-là, c'est un sujet complexe la migration quand même, parce que ça légifère beaucoup, il y a des chiffres qu'on a du mal à comprendre si on ne prend pas le temps de se poser dessus. Donc la plupart des journalistes avaient des informations un peu erronées ou peut-être commettaient des fautes mais inconscientes, d'où notre proposition avec la charte d'aller former les journalistes dans les rédactions.
Et comment vous y prenez d'ailleurs, et ce sera ma dernière question, pour former et pour former et aussi apporter cette transversalité que vous avez vu qui manquait lors de votre audit?
la transversalité, nous, on ne peut pas l'apporter pour les rédactions, on peut juste mettre un coup de projecteur sur le fait qu'elle est nécessaire.
Mais lorsque vous faites un binôme journaliste-chercheur, on ne peut pas dire que c'est une forme de transversalité ?
Si, mais ouais, la transversalité dont je parlais, c'est plus dans le traitement des angles. D'accord. Quand on parle de migration. Parce que dans une rédaction, comme vous le savez, il y a quand même une multitude de départements. Il n'y a pas que le département politique, le département économique. Il y en a d'autres. Il y a de la culture, il y a l'environnement, il y a plein de choses. Et donc, quand on parle de migration, ce serait bien qu'on prenne l'habitude maintenant de traiter ce sujet à travers tous ces angles-là. Et donc, nous, les formations qu'on propose, mais il faut que ce soit aussi demandé par les rédactions, puisqu'on ne s'impose pas aux rédactions, bien évidemment, c'est de faire un journal... Nous, on fonctionne en binôme journaliste-chercheur, chercheuse en l'occurrence, et dans ces formations, on a des journalistes, et parfois, il s'agit de formations où il y a des chercheurs et des chercheuses également, qui viennent ou avec des membres de réseaux associatifs parler avec les journalistes, puisque là où on aura vraiment une information de qualité, c'est quand des mondes jusqu'à présent qui ne se parlent pas énormément parce qu'ils ont des temporalités différentes pourront communiquer les résultats de leurs recherches les uns avec les autres.
Je vous remercie, Leïla Amar. Voilà. Je suis désolée
de vous quitter.
Je suis contente d'avoir pu en parler.
Merci beaucoup. Alors, pour rappel, on vous retrouve le 7 avril à 9h30 au Palais des Congrès de Tours dans le cadre des Assises internationales du journalisme. Et vous êtes l'invité d'ouverture.
Et venez à Tours, oui, c'est la plus... C'est... Pas ça parce que j'en suis originaire, mais c'est la plus belle ville du monde. Merci beaucoup, Leïla, d'être venue nous parler au micro de Radio Campus Paris. Tout de suite, on va marquer une dernière pause musicale. On va écouter Yal Arak Kalb par Omar Souleymane.
حارق قلبي الاحرق قلبك يا الحارق قلبي الاحرق قلبك ليش تعذبني ما خبت ربك ليش تعذبني ما خبت ربك نسين اسمي صاحوا لي باسمك يا من نسين اسمي صاحوا لي باسمك ذيبحني بقلبي جرحني حبك ذيبحني بقلبي جرحني شوقك في ضحني من قد ما احبك شوقك في ضحني من قد ما احبك
d'écouter Yal Arak Kalbé par Omar Souleymane. Vous écoutez Radio Campus Paris. Il est 19h56, c'est l'heure de la matinale.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure de ta chronique, Eve. Tu nous parles d'une faille spatio-temporelle ?
Oui, c'est ça. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression de vivre une faille spatio-temporelle en ce mois de février. Mercure rétrograde. Février, c'est bientôt fini. Le patriarcat, c'est toujours pas parti. Autant qu'on n'en pouvait plus de janvier, autant on aimerait que février dure un jour de plus. Et pour une fois, toutes les fêtes religieuses ont débuté en même temps. Et tout ça, sous la pluie. Je vais revenir sur la faille spatio-temporelle qui m'est arrivée entre samedi soir et hier matin. Hier, j'avais plus internet, j'étais coupée du monde, une bonne partie de la journée. Samedi soir, je rentre de Paris, l'envie me prend de commander McDo, que je prends tous les 3 ans littéralement. Et pour un simple menu burger frites coca, je me suis retrouvée à payer 10,04€. Genre d'où il sort ton 0,4, monsieur? Depuis quand c'est aussi cher de bouffer des frites? J'ai fait un blackout. Voilà. Et j'ai repensé au fait que l'Ukraine, c'était le grenier, à céréales de l'Europe. Maintenant, on est rattrapé par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, dont on fête le triste anniversaire des 4 ans, comme un enfant non désiré, et ce que ça coûte derrière avec toutes ces dépenses imprévues. En ce moment aussi, dans les actualités, se tient le Salon international de l'agriculture. Alors, je passe sur les petits ponches du président. Je pense qu'il en avait besoin. Et tiens, pour une fois d'ailleurs, il a peut-être ressenti ce que boivent les classes sociales moyennes et inférieures, les derniers de cordée. Étrangement, il n'est pas parti rendre visite à la Confédération paysanne qui a pris quelques accents du sud-ouest, du cru et de la terre. Les bonnets jaunes me rappellent un certain José Bové pour qui j'avais arrêté la malbouffe. Entre Emmanuel Macron qui boit du thé punch et une caouette l'année dernière, et la Confédération paysanne qui aime bien se faire refouler, oh, ils cherchent ces paysans révolutionnaires, hein, ils cherchent. Le dialogue n'est toujours pas à l'ordre du jour. Bah oui, la Confédération, lors d'une conférence avec la ministre de l'Agriculture, a défendu les territoires ultramarins. Oui, parce que ce n'est pas juste la défense des tiponches. Et c'est vrai que ce n'est pas la FNSEA qui ferait ce genre de discours. Les territoires ultramarins ne sont pas assez grands pour ces gens-là. Hier aussi, pour enfoncer le clou, j'ai pu entendre ce petit commentaire de Daniel Riolo sur RMC. Le salon de l'agriculture, c'est une fête de village géante, ça n'est rien d'autre que de la culture de la picole. Ou comment Daniel nous a fait du paysan shaming, du terroir d'éliting. Le salon, ça n'est qu'une grosse beuverie, messieurs, dames, entre blanc bonnet et jaune bonnet, celui de la Confédération paysanne. Clin d'œil. Daniel a oublié que les meumeux, les vaches, dans le langage de tous les jours, ne sont pas venus cette année à cause de la dermatose nodulaire. Grâce à Daniel, le mal-être paysan et celui de la terre ont été effacés. C'est sans compter aussi sur les crues qui ont inondé une bonne moitié de la France. Moi aussi, j'avais envie de dire « I am Garonne ». Ayam Gironde, lorsque moi aussi on me fait sortir de mon lit naturel. C'est vrai ça, que font les agriculteurs quand ils ne sont pas en train de se bourrer la gueule, se battre contre le Mercosur et soigner leurs bêtes? Ben, en fait, ils peuvent mieux irriguer leurs terres, grâce à des phénomènes plus naturels comme l'agroforesterie qui limiterait un peu le tumulte et les crues des rivières, par exemple. Ils pourraient aussi prendre soin des sols pour mieux nourrir leurs bêtes. Donc hier, j'ai pris le temps parce que la technologie t'enseigne, ma graine, la slow life, 2 heures pour charger une clé internet. La civilisation n'a pas beaucoup manqué lorsque j'ai repris contact avec elle l'après-midi. Donc Mercure rétrograde pour de vrai, je peux vous dire qu'il n'y a pas qu'elle qui rétrograde.
Merci Eve pour cette chronique spatio-temporelle. Et c'est vrai, Mercure rétrograde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette matinale. C'est maintenant l'heure des remerciements. Merci à Hélène Dacor, fondatrice de l'association Pax Musica, et Nadia Standa, pianiste ukrainienne, pour être venue nous parler de l'association dans grand entretien de la matinale. C'était Hugo à l'interview. Merci à Leïla Amar de Kitty News pour le Zoom et à Farah aux questions. Merci à Hugo pour le Flash Info. Et merci à Greg pour sa chronique cinéphile, Eve pour la chronique spatiale, Léo à la réalisation, c'était Diane à l'animation, et bien sûr c'était Jeanne et Aude, les best à la coordination. Et maintenant c'est l'heure de Happy Hour Scientifique. Thomas, de quoi vous allez nous parler?
Sport, on va parler Jeux Olympiques, on va parler femmes, donc restez avec nous pour une heure super sympa avec un doctorant en sociologie du sport.
Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur la matinale de 19h.